provocateur.
Je vais rebondir là-dessus. Enfin, si je peux, je vais rebondir sur deux choses. D'abord, je pense que le système binaire santé-assemblée, c'est fichu. Il faut vraiment du ternaire. C'est la troisième chambre constitutionnelle, le CESE. Et moi, je pense que ça peut être un lieu de l'ouvrir, comme vous disiez tout à l'heure, et de combat et de participation démocratique très fort, si tant est qu'on le renouvelle, c'est impératif. Et ça peut être un très, très bel outil citoyen. Il suffit qu'on s'en donne les moyens. Et je pense que le président n'est pas contre cette idée, me semble-t-il. En tous les cas, qu'il y a moyen de faire quelque chose.
Le président du CESE, le président de la République.
Le président de la République, il sait que ça existe, le CESE. Mais je pense qu'il y a une partie de la société...
T'es jamais venu ?
C'est sûr. Mais il y a une partie de la société qu'il méconnaît, j'aurais dit, et qu'il faudrait absolument lui faire connaître... la manière dont il veut faire travailler l'école, avec laquelle moi je suis d'accord, parce que c'est la manière dont travaillent les associations, avec un cadre national, régalien, etc., mais un projet, c'est cet équilibre entre le terrain et la vie collective qui peut être très intéressant pour les... Bon, j'ai été dans l'éducation nationale, inutile de dire que quand je vous dis ça, ça n'a pas toujours été bien pris. Mais pourtant, je pense que c'est ça qui permettra à l'éducation nationale de faire encore mieux, notamment sur les éléments d'inégalité.
C'est un autre sujet dont je ne vous conseille pas de me lancer dessus, non. Parce que là, on va venir...
Bref, et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir confondre regroupement et mouvement unique, pensée unique, offre unique, solution unique. C'est pas ça. Si le mouvement associatif est le seul interlocuteur représentant tout, alors qu'il est composé de fédérations et d'unions qui sont représentatives de leurs adhérents, il sera tout seul. Ça n'a plus d'intérêt. Ce qui fait la force d'un regroupement, c'est de garder ses pluralités. De la même manière que ce qui fait la force de la démocratie, c'est d'avoir plusieurs formes démocratiques et d'expression des chromatiques. Donc ça n'a pas d'intérêt qu'un forum citoyen puisse remplacer le CESE. De la même manière que ça puisse remplacer des élections ou de la représentativité dans les élections ou de nouvelles formes que sont en train de nous faire la nouvelle société, que les jeunes sont en train de faire la nouvelle société. On est dans une très grande transformation. Il faut qu'on accepte aussi de ne pas projeter nos seuls modèles. Il y en aura d'autres très vite qui arrivent.
Il est déjà 18h, Guillaume, avant de te donner la parole, je vais peut-être donner la parole à la salle et ça te donnera l'occasion sans doute de répondre sur cet enjeu des corps intermédiaires, de la refonte des corps intermédiaires. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des exemples dans vos organisations ou des choses qui vous ont fait réagir par rapport à ce qui a été dit ?
Allez-y.
Présentez-vous, s'il vous plaît.
Oui, Jean-Claude Deschamps, président du groupe des associations CESE, représentant de la Ligue de l'enseignement. Avant que nous soyons tous gelés sur place, parce que du fait de la clim. Non, justement, je ne voudrais pas aller sur le CESE, parce qu'en fait, il y a eu suffisamment d'échanges dessus. Je pense qu'on voit bien, effectivement, les enjeux. Par contre, vous parliez d'expériences ou d'expérimentations qui sont faites, et je voudrais relier les interventions et la question que vous posez avec... un travail qu'a fait le CESE et un énorme boulot que fait le monde associatif, et notamment le mouvement associatif, c'est la question des services civiques. Ce que moi je constate, ce que l'on constate à la Ligue de l'enseignement, c'est que lorsqu'on offre un dispositif qui permet, entre autres, à des jeunes dont on disait tout à l'heure qu'ils étaient parmi les plus importants abstentionnistes aux élections, et peut-être parmi les plus éloignés, quoique, des questions de fonctionnement de nos institutions démocratiques. Je dis quoique, parce qu'aujourd'hui, ça peut se discuter avec d'autres générations. Mais il ne s'agit pas de pointer l'une d'entre elles, mais là, on parle effectivement de ceux qui peuvent accéder à ce dispositif. Mais lorsqu'on leur offre la possibilité de venir à la fois participer à un projet collectif, mais en même temps, en ayant la garantie de pouvoir peser sur ce projet collectif, très vite, les liens se nouent. Et ces jeunes-là, on les retrouve aussi... en nombre, après leur service civique, investi dans la vie démocratique, investi dans la vie associative. Il y a un autre dispositif qui est beaucoup plus ancien et qui démontre cela, et je m'arrête là, qui est un petit peu différent, c'est celui des animateurs de colo. Regardez autour de vous le nombre de responsables associatifs, de responsables syndicaux, n'est-ce pas Thierry, de responsables de l'ESS, de responsables politiques, qui à un moment... dans leur jeunesse, ont donné du temps au service de l'éducation d'autres et de plus jeunes qu'eux, et comment ça a déclenché chez eux, par le faire, l'envie d'eux. Donc je ne fais pas de passéisme quand je dis ça, je dis simplement, le service civique, ça montre qu'on peut inventer des dispositifs qui peuvent aujourd'hui aussi recréer du lien entre la personne qui veut s'engager et l'engagement. Et le monde associatif est aussi pour cela un excellent laboratoire, la preuve, un laboratoire capable d'innover.
Et dans les bonnes nouvelles, c'est que, enfin, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, ça dépend comment on le voit, mais c'est que 2/3 des jeunes qui demandent à faire un service civique ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de missions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fort engagement.
Mais en même temps, là, si on allait au bout du raisonnement, les missions ne doivent pas être celles habituelles de l'association. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit si bien que ça. Parce que du coup, ça bloque un peu. Peut-être pour intégrer dans les associations, il ne faut pas que ça remplace les salariés, mais qu'il y ait un ou deux postes sur les missions habituelles, parce que l'association, elle va partager ses missions. Et là, il faut qu'elle réinvente une mission ou qu'il y en ait vraiment une pour pouvoir prendre un service civique. Alors qu'elle pourrait fortement prendre tout de suite un service civique sur ses missions habituelles, où il viendrait renforcer et apprendre en même temps et se former. Bon, à condition que ce soit limité, évidemment. Il y a des garde-fous. Mais je pense qu'il faudrait ouvrir un peu plus la possibilité de service civique, plus simplement.
La présidente d'Unicité qui vient d'arriver dans la salle, peut-être faire une opinion. Pardon.
Non, je
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur le... Oui, je vous en prie.
Merci. Françoise Sauvageau, représentant le mouvement sportif. Je vous remercie, Christine, de poser aussi clairement aujourd'hui la question de cette société en mouvement avec d'une part des organisations, des fédérations, des organisations excessivement structurées et un fait associatif qui régénère aujourd'hui d'autres formes. Je dis que pour nous, mouvement associatif ici, parce que je suis aussi vice-présidente du mouvement associatif, cette question de la synergie que nous devons mettre en place entre ces formes si différentes que vous évoquiez, qui ne sont pas concurrentes, mais qui apportent des façons de vivre l'associatif autrement, nous devons regarder de près cette question, à la fois avec bienveillance et respect, pour que nous ne rations pas ce train du 21e siècle, avec effectivement ces formes nouvelles. Et pourtant, nous sommes percutés aussi par ces questions. Donc, ce sont des vraies questions de fond, de mutation. Nous sommes dans cette période de transition, et vous le dites avec beaucoup de simplicité, et je crois que ça doit tous nous interroger sur cette façon de regarder le fait associatif dans son histoire, mais dans son devenir.
Merci. Je crois beaucoup en la jeunesse. J'aime les enfants.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.
Oui, très, très rapidement, mais c'était peut-être pour revenir sur la question des corps intermédiaires, sur le rôle des corps intermédiaires. Bah, c'est vrai qu'il y a, moi je regarde chaque année les chiffres du Centre d'études sur la vie politique française, sur la confiance des Français en direction des institutions, des corps intermédiaires. Et c'est vrai que les résultats de l'abstention, qui était un peu le point de départ, en tout cas le symptôme de cette fracture qui se creuse, quand on lit les chiffres depuis 2006 du CEVIPOF, je regardais tout à l'heure vite fait sur mon téléphone, mais en 2006 déjà, 81% des Français pensaient, en tout cas des sondés, pensaient que la politique ne pouvait pas améliorer leur vie. Alors aujourd'hui, on est à 89%. Donc je veux bien qu'évidemment, il y ait des enjeux liés à la crise, mais on a quand même l'impression, des éléments dont on dispose, on a quand même l'impression que c'est des éléments assez structurels, que finalement, ça évolue, mais que quand on a 89% des Français qui disent qu'ils ne pensent pas que la politique puisse améliorer leur vie, quelque part, quand je prends le truc de façon inversée, je me dis, ils sont quand même très républicain pour quand même se mobiliser pour aller voter, parce que c'est quand même un sacré concept de à la fois penser que ça n'a pas d'impact, mais quand même de parvenir à se mobiliser. Enfin, c'est plutôt intéressant. Alors, tout le monde n'est pas traité de la même façon. Les partis politiques, pour le coup, alors là, c'est 11% des Français qui ont confiance en eux. Les syndicats, un peu plus. Les associations, beaucoup plus, mais avec, du coup, un peu, voilà, une diverse... Enfin, beaucoup plus, mais... Ou en tout cas, ça, c'est... c'est moins là-dessus, mais je me demandais s'il y avait pas... Enfin, en tout cas, sur cette question de la confiance, s'il y avait des éléments qui pouvaient expliquer pourquoi les citoyens, parce que finalement, les corps intermédiaires, c'est rien d'autre que des citoyens organisés. Alors, qui pour représenter les salariés, qui pour mener des projets, mais qu'est-ce qui se passait, en fait, entre... Parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, de la relation corps intermédiaire-État, mais peu, en fait, de la question... parce qu'intermédiaire, ça veut dire entre deux choses, hein. Et du coup, de cette relation entre nous, enfin, citoyens organisés, quel que soit le rôle qu'on joue, et les citoyens, du coup, enfin, voilà, et les citoyens tout court, sans adjectif.
Est-ce que je peux me permettre... Je voudrais vous donner...
Allez-y, allez-y.
Je voudrais juste vous donner une anecdote. Au moment des dernières élections municipales à Orléans, j'ai discuté avec une journaliste qui a fait un radio-trottoir, qui a sondé sur le trottoir. Elle a rencontré une dame avec son bébé dans la poussette et elle lui a demandé « Est-ce que vous allez voter ?» Elle a dit « Non, pas du tout. » Elle dit « Pourquoi vous n'allez pas voter ?» Elle dit « Ça ne sert à rien, la politique, ça ne sert à rien. » Elle dit « Mais vous savez que c'est la mairie qui décide si vous allez avoir des places de crèche, etc. » Et la dame a répondu « Mais non, l'un ou l'autre, ils sont obligés de le faire, de toute façon. » Parce que je pense que la première chose qu'on ne comprend pas, et ça, c'est, vous avez raison, les corps intermédiaires devraient s'y attacher fortement. On ne sait plus ce que c'est que la politique. Plus personne ne se pose la question de l'assurance maladie. On paye trop de cotisations, mais qui c'est ? Enfin, il y a beaucoup de choses de nos institutions et de notre... que les gens ignorent complètement de leurs droits. Ils ne savent pas comment leurs droits sont acquis, s'ils peuvent les perdre ou pas les perdre. Il y a des choses qui sont d'une évidence totale pour eux. Ils ne s'imaginent même pas que ça pourrait ne plus exister. C'est une anecdote. Mais la dame, elle pense que droite, gauche, centre, peu importe, les crèches, il est obligé de les faire. Elle n'a juste pas compris qu'il peut en faire 3 ou il peut en faire 300. Mais voilà. C'est le truc. Comme si tout ça était acquis, totalement acquis, et que rien n'était vraiment... voilà. Sauf l'emploi. Ça, tout le monde a bien compris. Mais pour le reste, ça s'est perdu. Et Guillaume. Là, on a du travail à faire, sûrement.
Guillaume, si tu veux.
Non, mais... Enfin, je ne sais pas si je vais revenir au point de départ, mais simplement sur cette question de la politique, je pense qu'il y a aussi une dimension française qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on est... On est parti aussi de l'idée très longtemps que la politique pouvait tout changer. Et c'est quand on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas forcément tout changer, les gens ont basculé dans l'idée qu'elle ne pouvait rien changer. C'est un peu cet absolutisme de ce qu'on attend de la politique, du fait que dès qu'on a 51%, on peut construire le socialisme dans un seul pays. C'est plus compliqué que ça, la vie, et c'est vrai que c'est tout un boulot de le faire comprendre. Dans ce que je voulais revenir juste sur le débat précédent sur les corps intermédiaires, etc., et le numérique en particulier, parce que je fais partie d'un corps intermédiaire qui est assez impacté par la question du numérique, c'est les médias. donc effectivement, ça change tout pour nous et pour notre rôle dans la société. Ça pose des problèmes économiques considérables dans la mesure où les gens considèrent que l'information est gratuite, entre guillemets. C'est-à-dire que ça pose en particulier des problèmes particuliers pour les gens qui avaient l'habitude de ne pas considérer la pub comme une rentrée très importante pour fonctionner. Et c'est ces gens-là qui sont plus impactés négativement par cette évolution. Mais sinon, je pense que ça va se réguler. C'est très compliqué, mais on voit bien avec tout le débat sur les fake news en particulier qu'il y a besoin, y compris si le coût d'entrée sur le marché de l'information est très faible, il y a en fait besoin d'un tri, d'une qualification de l'information. Ça va se faire sous des formes sans doute différentes, probablement avec des acteurs différents aussi de ceux qui existent aujourd'hui. C'est très difficile, si vous voulez, c'est très difficile quand vous êtes dans le papier de se reconvertir de manière avec succès dans le numérique, parce que vous pouvez pas. Enfin, il faut continuer à faire vivre le papier pour, tout en faisant le reste, etc., avec des logiques et des contraintes qui sont très différentes malgré tout. Donc c'est des. Enfin, je suis en train de comprendre pourquoi c'est pas les fabricants de diligence qui ont construit les voitures, si vous voulez. Donc c'est effectivement très compliqué, c'est très très dur, y compris sur le plan social, hein, dans ce secteur-là, et ça favorise plutôt aujourd'hui une dégradation aussi de la qualité de l'emploi, de la rémunération, etc., etc. Mais en même temps, je pense que va émerger là aussi sur ce terrain-là de nouveaux corps intermédiaires, et ça va se réguler parce qu'il y en a besoin, y compris même si l'accès à l'information est immédiat et chacun peut diffuser ce qu'il veut, etc. Je pense qu'il y a une fonction sociale de tri, de qualification qui est nécessaire, et je pense que c'est la même chose pour le rapport des citoyens avec, ça peut pas être et ça ne va pas être direct. Il faut forcément ces corps intermédiaires sous des formes rénovés et dans des structures rénovées.
Merci beaucoup. Philippe voulait dire un petit mot de conclusion. Je vous laisse la parole pour conclure. Merci à vos trois intervenantes pour. Et merci à vous pour votre participation.
Merci. Bon, d'abord, un grand merci à vous trois. Je sais qu'on aurait pu continuer encore longtemps, très très longtemps sans doute, vu la richesse d'abord de vos interventions et évidemment la multiplicité des questions qui ont été posées. Deux, trois mots simplement en réaction de ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai pu retenir finalement de ce que vous avez dit. Bon, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que oui, la période, d'une certaine manière, est clairement à la reconfiguration, au questionnement, à l'interrogation. Vous l'avez brossé de manière large, mais il faudra sans doute penser la société, ou penser et faire la société différemment. Il faudra penser et faire la politique différemment. Il faudra penser et faire l'économie différemment. Très certainement, il faudra penser et faire la démocratie différemment. L'ensemble des points que vous avez soulevés démontrent que sur tous ces aspects-là, évidemment, nous sommes à la fois entre des éléments de crise, de questionnement et de transition, et il y a clairement pour nous un rôle à jouer là-dessus. Je comprends aussi est-ce qu'il faut tout jeter ? Non, a priori, tout n'est pas à jeter, quand même. Vous l'avez dit, enfin tu l'as dit Guillaume, la situation de la France sur de nombreux aspects, parce que c'était pas si pessimiste que ça quand même. Hein. On produit moins d'inégalités en France, on a plus de productivité, on a beaucoup d'engagement citoyen, et j'y reviendrai. Donc attention à ne pas tout jeter non plus dans cette grande lessiveuse, d'une certaine manière, à laquelle nous sommes. Quelques mots peut-être, parce que ça n'a pas été beaucoup dit sur la table ronde, mais essayons de regarder un peu ailleurs. Au-delà de nos frontières, moi j'y suis un peu sensible de par le monde associatif duquel je viens, mais finalement cette grande reconfiguration, ces grands questionnements, on les retrouve dans beaucoup d'endroits. C'est pas qu'un sujet français, on n'est pas un îlot non plus de ce point de vue-là. Si on regarde évidemment ce qui s'est joué aux États-Unis et la situation américaine, la situation du Royaume-Uni aujourd'hui, les questionnements au sein du Royaume-Uni, ce qui se déroule aussi dans de nombreux autres pays où d'une certaine façon, ça a été dit, enfin, la démocratie représentative a peut-être fait des progrès sur les 20 dernières années, bon, on va dire, disons depuis la chute du mur de Berlin. Elle a connu quelques coups d'arrêt assez sévères. Et jusqu'au sein de l'Union européenne, si on regarde ce qui se passe en Europe centrale et orientale, de ce point de vue-là, la montée des autoritarismes, la montée d'une autre forme d'organisation politique doit nous interroger aussi sur des contre-modèles qui sont en train de naître. Si on fait le tour autour de nous, si on regarde aussi les effets de la mondialisation commerciale, augmentation des inégalités, réduction des classes moyennes en Occident, vous ne l'avez pas forcément dit, mais on n'était pas loin. Une des explications aussi de ce qui s'est joué aux États-Unis, peut-être, passe par là aussi, là où les classes moyennes sont en émergence dans les pays asiatiques. Bon, donc il y a des mises en concurrence aussi de classes moyennes qui font qu'il y a des pertes de repères. Et on est une société qui a été bâtie, d'une certaine manière, par les classes moyennes. Donc effectivement, le sentiment que les pouvoirs publics On entend ça aussi, que les pouvoirs politiques, d'une certaine manière, ne maîtrisent plus forcément tout. Et donc, moi, ce que je retiendrai peut-être, c'est que le citoyen électeur, finalement, a le sentiment que son vote ne changera plus rien, que le citoyen travailleur également, si je comprends bien, a le sentiment que sa voix dans l'entreprise ne pèse pas, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a de la perte de repères. Alors, il reste le citoyen lui-même, et donc les besoins d'engagement, l'envie d'engagement, et qui se fait ailleurs d'une certaine manière, et je pense que c'est peut-être là que notre rôle est fondamental, le rôle du monde associatif, bon, des corps intermédiaires, le monde associatif tout particulièrement. Alors c'est vrai qu'on jouit d'une image bien meilleure que des partis politiques, que les syndicats également, effectivement. Nous restons plébiscités par l'opinion publique, juste après les cercles les plus proches, la famille, les amis, vient le monde associatif. Donc c'est un gage de confiance très fort, et tu l'as très bien dit, Christine. En même temps, il faut qu'on reste prudent également sur les risques d'institutionnalisation qui pèsent également sur notre secteur et l'enjeu de faire savoir faire place d'une certaine manière à ce besoin d'engagement, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous mobilise, mais c'est évidemment fondamental pour faire croître et faire durer ce besoin d'engagement qui existe dans la société aujourd'hui. Alors, notre rôle probablement, c'est de continuer à nourrir, être force de proposition, nourrir les solutions comme acteurs d'expérimentation, comme des acteurs correcteurs d'inégalités, ce que nous sommes, j'en suis convaincu, comme un des derniers lieux aussi qui favorise la mobilité sociale et la mobilité citoyenne. On est un des lieux aussi où on maintient les citoyens en activité d'une certaine façon, autour de l'activité, et parfois un lieu de redéfinition de ce qu'est l'activité. Donc c'est probablement tous ces points de force qui sont les nôtres, dans le contexte que vous avez largement décrit et bien présenté, qui peuvent constituer en tout cas un élément de projet. Donc clairement, c'est un appel, je pense, pour nous à continuer à être en mouvement, à continuer à assumer notre rôle, mais à savoir s'ouvrir et porter, être porteur de nouvelles solutions. Je pense qu'il nous faudra aussi, on n'a pas beaucoup évoqué, mais travailler en alliance, on ne le fera pas seul, bâtir ici un certain nombre d'alliances. Nous sommes partie de la famille de l'économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'acteurs, nous ne sommes pas seuls dans ce cadre-là, parce que le modèle, tu l'as dit, est fortement ancré en France. Notre modèle républicain, descendant d'une certaine manière, est très solide et très souvent, l'exemple du Grenelle est très juste. Moi, j'en ai vécu d'autres dans le secteur international. L'huître qui s'ouvre d'une certaine manière pour une logique de concertation, de participation, elle se referme très souvent assez vite. Et donc, effectivement, il faudra qu'on soit plusieurs dans ce cadre-là. Voilà. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre présence. Merci, Emmanuel Vernier, délégué général de SS France. On a un peu évoqué pour ta présence, aux chers collègues qui sont venus, les membres du groupe du CESE également. Merci à notre animateur, Vincent David, pour l'animation.